Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la figure de Sainte Thérèse d'Avila. Née en 1515 et décédée en 1582, la religieuse espagnole a joué un rôle important dans la fondation des Carmels réformés et elle a été un modèle pour de nombreux chrétiens. Pour essayer de comprendre sa spiritualité, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios toulousains Laurence Fraud de la communauté du Carmel séculier. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée.
Quelques éléments pour présenter Sainte Thérèse d'Avila, jeune femme brillante et aimée de ses proches. Elle entre à l'âge de 20 ans au monastère de l'Incarnation d'Avila. Elle y découvre le lien de l'amitié et de l'intimité avec le Christ dans l'oraison. Elle s'engage ensuite dans la fondation des Carmels réformés pour suivre de plus près le Christ dans la prière, la pauvreté et la simplicité d'une vie fraternelle. C'est un bon résumé pour la présenter, cette Sainte Thérèse d'Avila, Laurence Fraud.
Ouais, c'est un bon résumé, un peu rapide, mais bon, après c'est difficile de faire plus court.
Par quoi elle a été inspirée, Sainte Thérèse d'Avila, au début de sa vie?
Alors, Sainte Thérèse, elle a déjà une vie un peu particulière. Dès le début de sa vie, petite, elle construisait des ermitages avec son frère Rodrigo. Quand elle a compris que pour aller voir Dieu, il fallait mourir, donc elle a décidé son frère Rodrigo, qui avait 2 ans de plus qu'elle, quand elle avait 8 ans quand même, une petite fille avec un sacré caractère, de lui dire, ben voilà, on va aller voir le bon Dieu maintenant. Et pour aller voir le bon Dieu, ben, il faut aller se faire tuer. Et la façon la plus simple, c'est d'aller du côté des morts, où l'Espagne était, à cette époque-là, l'Espagne est occupée au sud, encore au sud. Donc ils partent tous les deux vaillamment le matin, en dehors d'Avila, à pied. Ils sont vite rattrapés par un oncle qui leur demande ce qu'ils font ici. Et ramenés à la maison. Il y a peut-être d'autres façons pour connaître Dieu. Après, effectivement, Thérèse d'Avila a perdu sa maman à 13 ans. Elle s'est tout de suite jetée à genoux devant Notre-Dame de la Charité, à Sainte Thérèse d'Avila, en lui demandant d'être sa mère. Voilà, comme toute adolescente d'une famille aisée, il y avait beaucoup de mondanité, beaucoup de frivolité. Le papa étant veuf, a décidé à 15 ans de la mettre au monastère de Notre-Dame des Grâces à Avila. Donc c'était son premier contact avec la vie religieuse.
Ses parents étaient chrétiens?
Alors... son père était très droit, avec une très grande rectitude, sa maman aussi. Son grand-père était juif, et ça, on l'a découvert qu'en 1941.
Voilà. Ah oui, donc 400 ans plus tard presque.
Tout à fait, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas dire qu'on était juif. Les juifs avaient obligation de se convertir ou de quitter l'Espagne, donc voilà, il s'est converti. Donc elle avait quand même des bases solides bibliques, on peut dire par là.
Dès le début de sa vie, on peut dire qu'elle savait ce qu'elle voulait. On l'a dit, elle est rentrée au monastère de l'Incarnation d'Avila à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui l'a motivée? Parce que savoir ce qu'on veut à 20 ans, c'est pas donné à tout le monde.
Alors la motivation à 20 ans, je pense pas qu'il y ait grand monde encore qui ait sa même motivation. Sa motivation, c'était la peur de l'enfer. Ah. Alors si vous voulez, je vous lis un petit passage.
Ah oui, avec plaisir.
Voilà. Je passais peu de jours seulement chez mon oncle, mais grâce à la pression qu'exerçaient sur mon âme les paroles de Dieu, celles que je lisais comme celles que j'entendais, grâce aussi à la bonne compagnie dans laquelle je me trouvais, j'en vins peu à peu à pénétrer cette vérité qui m'avait frappée quand j'étais petite. Tout n'est rien. Le monde est vanité et il passe vite. J'en vins à craindre aussi que si je mourais, je n'aille droit en enfer. Je n'avais pas encore d'attrait pour la vie religieuse. Cependant, je voyais que c'était l'état le plus excellent et le plus sûr, et peu à peu, je me décidai à faire violence pour l'embraser. Ce combat dura 3 mois. Donc, il faut savoir qu'elle part au petit matin avec son frère, toujours Rodrigo, à 20 ans, le cœur brisé, pour rentrer. Et une fois qu'on rentrait au monastère à cette époque-là, on prenait l'habit tout de suite. Donc c'était fini. Par contre, c'est une petite différence par rapport à maintenant. C'était un monastère où il y avait quelques 180 religieuses, des cellules en fonction de vos revenus. C'est-à-dire que les pauvres avaient une petite mansarde de 9 mètres carrés, elle avait un bel appartement. Et ils étaient encouragés à sortir très souvent parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir. Donc elle a passé quand même pas mal de temps dans sa famille et par ailleurs. Mmh. Voilà. Et c'est chez son oncle, un de ses oncles encore, qui était très croyant, où elle a lu à voix haute à son oncle le premier abécédaire d'Ozuna, qui est le premier traité sur l'oraison. Voilà. Et c'est à partir de là que tout a commencé, on peut dire, mais elle a quand même mis 20 ans de tergiversation au monastère pour se décider à rentrer pleinement dans une vie uniquement consacrée à Dieu. Entre les parloirs, les mondanités et compagnie, qui continuaient.
Oui, j'imagine que ça a dû être compliqué de faire accepter ce choix par sa famille, qui n'imaginait pas forcément ce destin pour elle.
Il faut se recadrer dans l'époque, en fait. C'est l'époque, 1535 à peu près, l'entrée au monastère. C'est une époque où les Espagnols, hommes, allaient tous dans le Nouveau Monde pour y chercher de l'or. Donc les deux solutions pour les femmes, c'était de rentrer au monastère ou d'être mariée. Mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Voilà, donc et puis une vocation religieuse était toujours bien vue dans les familles chrétiennes. Et c'est vrai que un certain nombre de ses sœurs et de ses frères étaient mariés aussi. Donc voilà.
Vous disiez, elle était souvent avec son frère Rodrigo. Qu'est-ce que lui, il est devenu quand elle est rentrée au monastère?
Il me semble qu'il est rentré chez Dominicain, mais...
Et qu'il a suivi le...
voilà, un autre mouvement où il est rentré près de diocèse. Mais je suis désolée, là, je n'ai pas creusé de ce côté-là.
Laurence Roux, vous faites partie, vous, du Carmel séculier. Concrètement, ça veut dire quoi?
Alors, le Carmel séculier, c'est le tiers ordre pour avoir l'ancienne dénomination du Carmel. Ça veut dire que je fais partie de la troisième branche du Carmel. Donc, je bénéficie pleinement des grâces du Carmel et je suis pleinement les saints du Carmel. Mais je reste dans mon état de vie laïque, puisque je suis mariée, mère de 5 enfants, et je reste mariée.
Voilà. Et au quotidien, alors ça veut dire quoi ?
Au quotidien, j'ai une rencontre une fois par mois avec ma communauté, toute la journée, où on partage l'eau d'oraison, messe, temps d'enseignement et temps de temps fraternel, très important ça. Et pour tous les jours, je m'engage à avoir au moins une demi-heure d'oraison par jour, les laudes et les vêpes tous les jours et une vie sacramentaire intense, voilà.
Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de faire partie de ce Carmel séculier ?
Un engagement un peu plus fort, un engagement où je me donne un peu plus pleinement. Après, la première qui m'a attirée, effectivement, c'est la Sainte Française, c'est la petite Thérèse de Lisieux, qui est fille de Thérèse d'Avila. Voilà. Je suis rentrée, en fait, au Carmel... après avoir fait l'école d'oraison au couvent des Carmes et après avoir fait l'animation pendant un certain nombre d'années. Le Seigneur m'attendait là, à ma première école d'oraison.
Qu'est-ce qui vous lie à Sainte Thérèse d'Avila et aussi à Sainte Thérèse de Lisieux, vous le disiez ?
Alors, Sainte Thérèse d'Avila, particulièrement, vous allez à la basilique à Saint-Pierre de Rome. Il y a une très belle statue d'elle avec la dénomination Mater Spiritualis. Les docteurs de l'Église, c'est la mère des spirituels, de tous les spirituels, c'est-à-dire de tous ceux qui vivent de l'Esprit-Saint. Voilà. Après, je suis membre de son ordre, et ce qui me lie... Voilà, il y a des membres de ma communauté qui ont été convertis en lisant le livre de sa vie. Et la personne actuellement la plus célèbre qui a été convertie comme ça, c'est Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix.
Voilà. Vous le disiez, Sainte Thérèse d'Avila, c'est la première femme docteur de l'Église.
Oui. C'est beau, hein ?
C'est beau, oui. Hein, c'est beau, mais pourtant, on ne la connaît pas comme ça, comme première femme docteur de l'Église. Ça a mis du temps à être connue.
Ça a mis du temps à être connue parce que c'est une femme.
Et voilà. C'est plus dur de le reconnaître.
Plus dur. Tout à fait. Saint Jean de la Croix a été reconnu docteur de l'Église bien avant elle, alors qu'ils sont reconnus tous les deux au même niveau, enfin, au même rang. Voilà.
Qu'est-ce qui vous inspire dans sa vie à Sainte Thérèse d'Avila ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Tout. Tout. C'est une femme extraordinaire. C'est. elle a passé 20 ans de sa vie avant de se livrer complètement, et puis...
Et pourquoi ces 20 années ? Parce que elle semblait décider dès ses 20 ans à rentrer
alors,
dans une communauté,
ans,
et ensuite...
Dès ses 20 ans, ce que je vous ai lu, elle avait peur de l'enfer.
Donc c'est juste pour cette raison.
Voilà, c'était une crainte, c'était le temps de développer l'amour de Dieu, de commencer à faire oraison, de se laisser prendre petit à petit. Et puis, on est aussi à une époque, on est en terre d'Espagne, où le roi Philippe II favorisait la réforme des ordres monastiques et souhaitait revenir à une réforme, à quelque chose, comment dire, de plus sobre, de plus profond. Et voilà. Donc elle était dans ce mouvement-là. Et avec d'autres sœurs, elles se sont dit, bah, tiens, si nous aussi on revenait aux sources du Carmel. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordre du Carmel réformé. Voilà. Si nous aussi on revenait à plus de pauvreté, je vous ai dit, elles étaient 180 sœurs.
Elles, en fonction des revenus
en fonction
aussi.
Des revenus, etc. Donc ça faisait une distance entre les sœurs, les unes avec les autres. Et son intuition au départ, elle, c'était d'avoir des petits couvents de 13 au maximum, où les sœurs soient vraiment toutes amies entre elles, indépendamment de la sensibilité, ça veut dire de faire des efforts, de faire exprimer la charité en premier lieu, de vivre une vie toute simple. Et elle voulait avoir des couvents sans revenus, ce qui posait aussi problème à l'époque. Sachant que les hommes n'étaient pas là, l'or arrivait coulé à flot, mais il n'y avait plus personne pour cultiver les terres. Et seuls qui cultivaient, en fait, c'était les musulmans ou les juifs. Enfin, les juifs étaient dans le commerce. Et... Voilà, comment nourrir des sœurs et faire vivre des sœurs sans revenus.
Et alors, comment elles ont fait ?
Par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est... Après, ce que je trouve, elle a commencé à dire aux sœurs à côté d'elle ce qu'elle voyait, comment elle fonctionnait. Donc c'est à la suite de ça qu'elle a écrit ses livres. Et elle a écrit ses livres toujours par obéissance. C'est-à-dire qu'elle donnait des conférences, les sœurs lui demandaient, ou le préposé général de l'ordre lui demandait d'écrire. Ses livres, à l'époque, ont été donnés à l'Inquisition. Parce que l'Inquisition avait un fort regard, c'est-à-dire que c'était quand même quelque chose de nouveau. Il y avait un autre mouvement qui s'appelait les Illuminados, à peu près, voilà. À cette époque-là, ils avaient peur de ces illuminés, se dire est-ce qu'elle n'est pas une illuminée elle-même. Donc elle confiait toujours, l'Inquisition a lu, relu ses livres, et n'a jamais rien trouvé qui soit contraire à la doctrine de l'Église. Et dans son... Donc elle a écrit le livre de la vie, où elle raconte sa vie. Ensuite, le livre de le chemin de perfection, où elle décrit vraiment par quel chemin on doit passer pour prendre ce chemin de l'oraison. Et elle passe quasiment la moitié du livre à ne pas parler d'oraison, mais à parler de vertu. Vertu de charité fraternelle, en premier. La charité, comment j'aime vraiment, en vérité, mes parents. Mes sœurs, voilà, ne pas se laisser guider par l'appât de l'argent ou par des gens qui demandent à ce qu'on prie pour qu'ils aient une bonne fortune aussi. L'humilité, qui je suis face à Dieu, et se connaître, et le détachement des biens. Alors, un autre point qui a motivé la réforme de ces couvents, c'était aussi en France le début des guerres de religion. Une semaine après un épisode, je ne sais plus lequel, là, je suis désolée, elle a appris la guerre entre catholiques et luthériens. Voilà, c'était pour elle un crève-cœur, quoi. C'était vraiment... Elle ne savait pas quoi faire. Une autre chose, elle avait ses frères qui étaient partis en Amérique du Sud, donc ils lui racontaient tous les Indiens qui ne connaissaient pas Jésus. Et elle s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose qu'elle a vue, c'était d'avoir une vie de prière et d'union au Christ intense, voilà, pour soutenir ce qu'elle appelle les porte-drapeaux, c'est-à-dire les prêtres, en premier lieu, pour prier pour le monde, Et une de ses phrases, c'est « Le monde est en feu ». Mais est-ce qu'il n'est pas en feu aujourd'hui aussi ?
Vous le disiez, quand elle est rentrée au monastère de l'incarnation d'Avila, c'est par peur de l'enfer. Comment ça lui est venu, cette peur de l'enfer ? Est-ce qu'elle a connu des événements particuliers avant ses 20 ans qui ont fait qu'elle avait cette crainte ?
C'est une époque où on n'avait pas peur de parler de l'enfer ni du démon. Maintenant, on l'occulte. Je pense que c'est pas mieux. Voilà. Le démon est présent et l'enfer, c'est le refus de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui refusent Dieu. Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question, désolée. Mais elle a eu la particularité, elle aussi, le bon Dieu lui a donné la vision de l'enfer. Donc, pour lui représenter un endroit qui était sombre, étroit, petit, maladorant. Voilà, enfin, elle se dit, ben voilà. Et en se souvenant de ce qu'elle avait fait, elle a dit, ben, tout ce que j'ai pu faire avant de rentrer me méritait l'enfer. Et son but, c'est quand même de voir Dieu, de voir... De voir Jésus.
Sainte Thérèse d'Avila, elle est aussi présentée comme la sainte de l'amitié. Qu'est-ce que vous avez à me répondre à ça ?
Alors, la première chose qu'elle a établie dans ses couvents réformés, c'est deux fois une heure de récréation.
Qu'est-ce que c'était la récréation chez les sœurs ? Alors, ça ressemblait à quoi ?
Alors, la récréation avec les sœurs, de toute façon, une récréation, on n'est jamais inoccupé. C'est-à-dire que les sœurs soit épluchent les légumes pour la soupe, soit cousent, soit brodent, etc. Et elles s'entretiennent les unes les autres. Parce qu'il est facile, quand on est tout seul dans son coin, de se croire saint. De se dire, je me mortifie, j'écoute la parole de Dieu, très bien. Mais c'est vraiment la confrontation avec l'autre, avec l'idée de l'autre, accepter ce que l'autre dit, accepter, comme dit la petite Thérèse, qu'une autre personne prenne votre idée et la redise tout haut en récréation, justement, comme si c'était la sienne. Voilà, c'est aussi partie de ce dépouillement. C'est avoir ces petits gestes d'amitié, d'amour avec des sœurs. Même quand on ne les supporte pas. Et surtout quand on ne les supporte pas. Une des choses qu'elle faisait régulièrement quand elle estimait qu'elle n'avait pas... quand elle trouvait qu'elle n'avait pas fait d'acte de charité, le soir, elle rangeait les manteaux de ses sœurs, sans qu'elle le sache. Après, le but, c'est effectivement de faire ces petits actes d'amour, de faire laisser passer l'autre en premier, d'avoir des petites intentions, de paroles aimables, etc. Je ne sais pas que dire.
Dans son caractère, elle était comme ça, elle était sociable, elle allait vers les autres.
Ah, extrêmement sociable.
Extrêmement sociable.
Extrêmement sociable. C'était une personne où les gens demandaient à la voir au parloir. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de parloirs au monastère de l'Incarnation où elle est rentrée en premier. Et elle était extrêmement sociable, elle dansait des castagnettes, Thérèse de Lisieux a monté des petites pièces de théâtre pendant la récréation. Enfin voilà, c'est des choses très festives, très joyeuses, pour s'entraîner vraiment dans la joie de Dieu, mais la joie pure de Dieu.
Donc amitié, humilité,
Détachement. Alors elle a mis au monastère de l'Incarnation, les sœurs pouvaient sortir. Maintenant, les carmélites sont cloîtrées. Derrière une grille, elles ne sortent plus.
Pourquoi c'était important pour elle de laisser un certain nombre de libertés aux autres sœurs, notamment par rapport au détachement, le fait... toutes ces choses importantes. Vous disiez l'amitié, vous disiez l'humilité, le détachement.
Alors, le détachement, c'est...
Pourquoi c'était important à ses yeux ?
Se détacher des choses matérielles pour s'attacher à l'unique bien qui est Dieu.
Et ça la concerne directement parce qu'elle a su se détacher aussi de son train de vie qui était aisé avant ses 20 ans.
Train de vie globalement aisé, c'est des relations un peu frivoles, pas une bonne considération des amitiés des uns et des autres.
Et dès qu'elle est rentrée au couvent, dans la communauté, ça a totalement changé.
Oh, à l'incarnation, non, je vous dis, elle a fallu 20 ans, mais une fois qu'elle est rentrée au Carmel, une fois qu'elle a fondé son premier Carmel à Avila, à Saint-Joseph d'Avila, elle était... elle est rentrée au Carmel de Saint-Joseph d'Avila, elle a fait faire profession à un certain nombre de filles, Et comme elle avait fait profession, elle, au couvent de l'incarnation, il a fallu qu'elle rentre et qu'elle attende la permission du supérieur général dans le tumulte général d'Avila où on s'en en parlera peut-être un peu plus tard.
Oui, ben voilà. Vous avez anticipé la deuxième partie, on va faire une petite pause musicale. On écoute Be Witness en ce jour.
En ce jour, chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. En ce jour, chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. Annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le. Jour après jour, nos cœurs vibrant de foi, oh oh eh oh, sont un cri de joie, oh oh eh oh, le monde une ovation, oh oh eh oh, en ce jour chantons pour son nom. En ce jour chantons. Dansons, vers lui nos louanges monteront. Annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le jour après jour. Nos cœurs vibrants de foi, oh oh eh oh, sont un cri de joie. Témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps. Raconter ses hauts faits, partager son amour, fêter-le jour après jour. Nos cœurs vibrants de foi, oh oh eh oh, poussons un cri de joie, oh oh eh oh, que monte une ovation, oh oh eh oh, en ce jour chantons. Cœur vibrant de foi, oh oh eh oh, son un cri de joie, oh oh eh oh, monte une ovation, oh oh eh oh, chantons, chantons, oh oh eh oh, chantons, chantons, oh oh eh oh, chantons, chantons, oh oh eh oh.
Présence. Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et Be Witness que vous venez d'entendre qui sera prochainement en concert à Rodez. Information donnée par Jonathan Botello de la matinale. On est de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Et j'ai toujours le plaisir d'être avec Laurence Fraud de la communauté du Carmel séculier. Dans cette deuxième partie, je voudrais aborder la question de Sainte Thérèse d'Avila en tant que bâtisseuse. C'est une bâtisseuse de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, on peut la présenter comme ça?
Ah oui, tout à fait. C'est un personnage extraordinaire. Elle a commencé, donc, comme je vous disais précédemment, par fonder le couvent de Saint-Joseph à Avila. Voilà, où elle a trouvé une petite maison, c'est sa sœur qui l'a achetée sous son nom, elle a fait faire les travaux, et sous prétexte de soigner son beau-frère ou son frère, je ne sais plus, elle était là pour surveiller les travaux, et une fois que le Saint-Sacrement a été installé, ça y est, la communauté était là. Donc tout s'est fait, et on sonne les cloches. Donc le voisinage a su qu'il y avait un nouveau couvent quand ils ont sonné les cloches. Et alors là, ça a été un scandale.
Et pourquoi ça a été un scandale?
Parce que c'est un couvent de carmélites sans revenus, dans un milieu où il y avait des difficultés déjà à manger tous les jours. C'est-à-dire que les nobles
Les nobles se faisaient servir dans des plats d'argent, mais au milieu dedans, il y avait un radis. Il n'y avait rien. C'était beaucoup d'apparat. Voilà, donc ça a fait scandale. Ils étaient à côté d'un couvent de Clarisse, donc ils se sont dit non, un deuxième couvent de sœurs, c'est pas possible. Ouais. Et finalement, le bon Dieu, à chaque fois, il y a des moments où il disait il n'y a plus de farine, il n'y a plus rien à manger. Mais il disait on va aller cueillir de l'herbe dans le jardin. Ouais. À midi, on sonne, et puis il y a du monde qui apporte de quoi manger. Tout s'est fait comme ça, sous la grâce divine. Donc à la suite de quoi, soit le provincial, soit l'évêque, soit Philippe II demandait à Thérèse d'Avila d'aller construire d'autres couvents réformés ailleurs en Espagne, donc elle était appelée. Donc il faut imaginer cette carmélite qui ne voulait pas quitter son cloître, voyager dans une roulotte à peu près, tout volet fermé. Voilà, comme ça on ne la voyait pas. Oui. Entourée d'Hidalgo, à parcourir les routes d'Espagne pour aller installer ses couvents. Donc elle disait la liturgie des heures avec les deux ou trois sœurs qu'elle prenait avec elle. Elle acceptait de dormir dans des auberges avec ses sœurs dans une chambre séparée, mais pas forcément. Souvent très habité par des petites bêtes.
On imaginait qu'elle.
Voilà, tout à fait. Voilà, donc vous imaginez une femme de cette époque parcourir toute l'Espagne, les routes, par beau temps, mauvais temps, maladie, etc. Elle avait quand même une santé assez fragile. C'est extraordinaire. Donc, elle s'implantait à chaque fois de la même façon. C'est-à-dire qu'elle trouvait des gens qui étaient amis, qui repéraient une maison, ils commençaient par louer, faire des travaux, installer, avec des allers-retours à chaque fois. Une fois que les gens apprenaient que c'était pour fonder un monastère, des fois ils se rétractaient, ils n'avaient plus de maison, il fallait en trouver une autre. Vous imaginez tous les aléas, on se dit, on voit le résultat, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a pu avoir avant. Et des fois, elles font un couvent, elle n'avait pas deux liards en poche.
C'était une nomade, elle vivait une vie de nomade.
Unie au Seigneur, une vie nomade quand elle était sur les routes pour aller fonder. Après, c'est quand même des épisodes, ça durait 2-3 mois. Après, elle retournait dans son couvent.
Et elle inspirait confiance quand elle arrivait avec son idée de fonder le couvent. Les gens la suivaient.
Elle a déclenché beaucoup de tumulte dans beaucoup de villes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui la suivaient, qui étaient, elle avait un charisme extraordinaire. Donc, les gens qui l'approchaient de près, soit l'aimaient beaucoup, soit elle faisait peur. En se disant, mais qu'est-ce qu'elle va faire encore? Donc, il y a quelques personnes qui l'ont soutenue, qui ont donné les moyens pour acheter des maisons, pour faire. Et puis, une fois que la cloche est sonnée et le Saint-Sacrement installé,
c'est fait.
Le couvent est installé. Après, il faut vivre. Donc, elle a fondé en tout 18 couvents.
18. Sur toute l'Espagne.
Sur toute l'Espagne. Un couvent uniquement pour les hommes de Carmes réformés qu'elle a fondé, qu'elle a mis avec Saint-Jean de la Croix, qui est à Dourvello. Et à Pastrana, il y avait un couvent de carmélites. Et puis, un peu plus loin, un couvent de Carmes aussi. Donc, elle a fondé aussi avec Jean de la Croix. Donc, vous imaginez avec les moyens
du bord, oui.
Du bord, dans une confiance infinie dans le bon Dieu, en disant, si c'est la volonté du bon Dieu, il le fera. Et elle pouvait passer des fois 2 mois, 3 mois dans l'inquiétude, à se demander ce qui se passait. Quand elle était dans l'action, elle était parfaitement confiante dans le bon Dieu. Et une fois qu'elle avait installé, elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? comme beaucoup aujourd'hui, quand il y a des fondations, c'est toujours le cas. Elle récupérait des maisons parfois à moitié détruites, elle installait les sœurs dans des lieux pas tout à fait confortables. C'était.
Vous le disiez, elle va nouer une forte amitié spirituelle avec un jeune moine, Jean de la Croix, en 1567.
Jean de la Croix, ou Jean de Saint-Mathias, était, quand il était chez les Carmes, chaussée, Il avait 25 ans quand il a envisagé de rencontrer, d'aller chez les Chartreux, parce que les carmes chaussées, pour lui, n'étaient pas suffisamment strictes, étaient de la même façon que les carmélites de l'incarnation sortaient, voyaient du monde, etc. Les carmes des chaussées, à l'époque, c'était du même genre, et lui se faisait remarquer par sa vie exceptionnelle de sainteté, de pénitence, et il désirait autre chose, donc il voulait aller chez les Chartreux. Pareil, j'ai un petit texte à vous lire, c'est bon ? Son nom est frère Jean de la Croix. Il servait de compagnon à un autre religieux qui me dit des choses admirables de son genre de vie. J'en louais notre Seigneur, et l'ayant entretenu, je fus enchantée de lui. J'appris de sa propre bouche qu'il avait lui aussi le désir d'entrer chez les Chartreux. Je lui déclarai alors mon projet et lui demandai avec insistance d'attendre que le Seigneur nous donne un monastère. Je lui fis voir que s'il voulait embrasser une ville plus parfaite, il avait tout avantage à le faire dans son ordre même et que Dieu en serait plus glorifié. Il me donna sa parole, à condition de ne pas avoir à attendre longtemps. Donc ils se sont rencontrés en octobre ou novembre 1967 à Medina del Campo, quand Sainte Thérèse d'Avila avait déjà commencé à fonder. Lui avait 25 ans. Doroello s'est fondé en 1568. Voilà. Alors Doroello, vous imaginez, une petite cabane de berger. Dans sa cellule, il ne pouvait même pas se tenir debout. Il rentrait à quatre pattes dans sa cellule. Il pouvait juste tenir assis.
Et voilà ce que c'est devenu après.
Et voilà.
Est-ce qu'après, ils ont gardé contact ?
Ils ont noué une amitié très forte. Après, Sainte Thérèse d'Avila, dans un épisode où elle a dû revenir, le provincial de son ordre lui a demandé d'être prieur de l'incarnation. Donc son premier monastère, où il y avait 180 sœurs, ingouvernables. Donc elle arrive... En fait, à la place de la prieure, elle met la statue de la Vierge Marie, elle se met à côté en disant « voilà votre mère ». Elle fait venir Saint Jean de la Croix comme confesseur, où il avait déjà commencé à fonder, en lui disant « ben voilà, je vous amène un saint pour confesseur ». Et à la fin, elle a été réélue par toutes les sœurs. Voilà, ils ont eu beaucoup d'échanges épistolaires, ils se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup rencontrés. Après, à un moment, elle s'est mise entre les mains complètement du Père Gratien. Et Saint Jean de la Croix a poursuivi son chemin chez les Carmes des Chaussées, par ailleurs. Mais ils ont eu des rencontres extraordinaires.
Grâce à la création de nombreux couvents, vous le disiez, 18 tout à l'heure, elle va aussi devenir une figure de l'époque et elle va même déclencher des mouvements de ferveur exceptionnels. C'est par son charisme, ça aussi.
Mouvement de ferveur, mouvement d'opposition, beaucoup.
Elle rassemblait. Elle rassemblait autour d'elle. Soit on l'aimait, soit on l'aimait pas aussi.
Elle a déclenché beaucoup de mouvements de curiosité au départ et d'inquiétude en se demandant qui c'était, puisqu'elle a bénéficié de grâces surnaturelles extraordinaires, visibles. Et le Seigneur s'est servi d'elle de cette façon-là pour effectivement lui donner une certaine notoriété. C'est-à-dire qu'à partir de ça, elle ne savait plus où elle en était, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc elle s'est confiée, elle a été voir beaucoup les dominicains, les franciscains, les jésuites, à avoir des avis d'hommes éclairés pour avoir leur avis et puis à dire ben, « ce que je vis, ça vient de Dieu ou ça vient du diable ?» Voilà, donc c'est remonté très haut. Voilà. Même Philippe II a entendu parler d'elle, alors qu'au départ, elle faisait partie d'une noblesse moyenne, quoi. Mais bon, voilà, c'est... Et effectivement, elle demandait au Seigneur à chaque fois de lui débarrasser de ses grâces visibles, parce qu'elle était très très gênée, elle voulait pas, absolument pas que ça se voit, ni que ça se sache. Et quand elle était suffisamment connue, paf, c'était fini.
Après cette vie de sur les routes, elle s'est posée au sein d'une communauté et...
Alors, elle est passée de couvent en couvent quand même. Elle est morte sur la route. En rejoignant un couvent qu'elle devait aller fonder. On lui a demandé d'aller fonder un dernier couvent. Elle lui a dit, mais c'est pas possible, vous voyez l'état dans lequel je suis.
Elle était, vous disiez, elle avait une santé fragile, elle était malade régulièrement.
Voilà, elle avait une santé fragile, un certain nombre de... Juste après être entrée à l'incarnation, elle a été, elle est devenue de plus en plus malade. Mmh. Son père l'a sortie du couvent en espérant la soigner, mais la guérisseuse qu'elle était allée voir en fait a fait plus de mal que de bien. À un moment, on l'a crue morte pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, elle a ouvert les yeux et elle a commencé, mais elle était paralysée. Mmh. Donc elle s'est confiée à Saint-Joseph. Il a fallu 3 ans avant qu'elle arrive à remarcher. Donc elle a gardé quand même un certain nombre de séquelles de ce qu'elle a pu vivre à ce moment-là. Et elle était fragile. Mmh.
Elle est décédée en 1582 et tout de suite...
Ah, tout de suite. Tout de suite, très 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 connue.
Tout de suite, très connue.
Très connue. Sa dernière parole, c'était « Je suis fille de l'Église ».
Et c'est aussi grâce à cette phrase qu'elle est devenue derrière docteur. Elle a été reconnue docteur de l'Église.
Ouh.
Non, pas tout de suite.
Sa sainteté a été reconnue immédiatement.
Oui, ça a été rapide, oui.
C'est-à-dire que il y a eu une sorte de, comment dire, de bagarre pour son corps, savoir où est-ce qu'elle serait enterrée ou pas, et chacun voulait un bout de Sainte-Thérèse d'Avila. C'était l'époque.
Et donc chacun eu un petit morceau.
Voilà, tout à fait. C'était l'époque des reliques. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus actuellement.
Non.
Il faut remettre dans son contexte et il faut remettre dans les reliques. Nous mettent en présence du saint. Voilà. Mais tout le monde a voulu avoir sa relique.
Donc, rapidement...
Et elle est devenue... elle était nommée docteur, première femme de docteur de l'Église par Paul VI dans les années 60, 1960.
C'est une belle reconnaissance pour toute son œuvre.
Ah, c'est... Voilà, c'est une belle reconnaissance. Et il était temps qu'une femme soit reconnue femme de l'Église. Bon, voilà, c'est mon petit côté féministe.
On va faire une deuxième pause musicale, on reviendra dans moins de 3 minutes. On parlera des 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, ce livre qu'elle a rédigé en 1577 et qui nous apprend beaucoup sur elle. Et juste avant, on écoute « Laisse-toi guider » de Glorious.
Jésus, laisse-toi guider.
par Marie, à Jésus. Laisse-toi guider par Marie, à Jésus.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Laurence Fraud de la communauté du Carmel séculier. Le temps passe vite, Laurence Fraud, une dernière partie et surtout un point vraiment important à aborder, c'était cette question du livre qu'elle a rédigé en 1577 qui nous apprend beaucoup sur elle, les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Déjà, pourquoi elle parle de demeures?
Alors, je vais vous donner ma citation tout de suite.
Eh bien, on vous écoute.
Je considère notre âme comme un château fait d'un seul diamant ou d'un cristal très pur. Au centre du château se trouve la demeure où habite le grand roi. Elle est entourée d'une multitude d'appartements, soit au-dessus, soit en dessous, soit sur les côtés. De sa demeure qui est au centre, le roi, ce soleil de vie, envoie sa lumière dans toutes les demeures de ce magnifique château. C'est là, dans la principale demeure du château, celle du roi, que se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme, la porte par laquelle on entre dans ce château et l'oraison. Voilà, en fait, l'âme, elle nous le compare à un diamant où il y a des demeures et au centre est Dieu. Donc, elle a écrit ce livre des demeures par obéissance, ça fait suite au livre de sa vie. Mmh. Et elle devait parler un peu plus profondément de ce qui se passe quand on arrive dans l'union au Christ, petit à petit. Donc il y a un découpage qu'elle fait, qu'elle a choisi de faire, parce que c'est elle qui a vu ça en sept demeures, qui n'est pas linéaire. Je voudrais mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'au cours d'une journée, tout croyant peut passer par un certain nombre de ces demeures, visiter l'une, l'autre, etc. Quand on vient juste de communier, on est dans la cinquième demeure. Voilà, c'est un passage linéaire. Et effectivement, quand on s'est installé dans toutes les six premières demeures, on passe à la septième. Après, il y a d'autres saints qui ont fait d'autres découpages, elle a choisi celui-là. Après, je peux vous donner rapidement le découpage qu'elle a choisi. Je vous le lirai à chaque fois avec un passage biblique qui me semble intéressant. Voilà, donc la première, c'est l'appel à vivre avec Dieu. Et c'est la Genèse. Donc, vivre, commencer à reconnaître qu'on a un Dieu qui est créateur, que nous sommes créatures, commence à se connaître nous-mêmes et à se convertir. La deuxième demeure, ça, c'est connaître et suivre le Christ. Ça pourrait être l'appel des disciples. Donc, on va commencer à mettre en place des petites choses, à avoir certaines petites habitudes qu'on va éliminer, prendre de bonnes décisions, faire 5 minutes d'oraison par jour, par exemple, arriver à l'heure à la messe tous les dimanches. Voilà, ça peut être des petites résolutions toutes simples qui peuvent coûter, qui peuvent être plus difficiles. La troisième demeure, on se décide fermement, mais c'est le récit du jeune homme riche, c'est-à-dire qu'il suit tous les commandements. Et quand Jésus lui dit « Viens, suis-moi », elle lâche tout, il s'en va tout triste. C'est-à-dire que tout, jusqu'au troisième demeure, tout est de notre fait. C'est nous, c'est la preuve d'amour, on se décide à suivre Jésus-Christ parfaitement. C'est la valeur de l'épreuve et la confrontation aux autres. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les heures de récréation sont aussi faites pour recréer les autres et se recréer nous-mêmes grâce aux autres. À partir des quatrièmes demeures, c'est Dieu qui agit. Donc, on peut faire tous nos efforts jusqu'au troisième demeure. La suite ne dépend plus de nous. Ça dépend du bon Dieu. Il faut bien remettre les choses à leur place. Oui. Voilà. Donc, le quatrième, ça peut être, c'est le recueillement surnaturel, le mont Tabor. Voilà. On expérimente, elle expérimente, on peut expérimenter ce qui s'appelle l'oraison de recueillement. C'est-à-dire qu'on est complètement, l'oraison de quiétude, pardon. On se sent complètement recueilli, notre volonté complètement prise en Dieu. Ça peut durer quelques instants. C'est quelque chose qu'on est incapable de faire par nous-mêmes. Voilà, c'est une action de grâce, c'est le passage à l'expérience mystique. Et voilà. La cinquième, c'est la transformation. Ça pourrait être les récits de la passion, le festin nuptial. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est aussi l'union de volonté avec le bon Dieu. C'est-à-dire, je veux ce que Dieu veut. Et le bon Dieu, ben, il passe par les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans notre raison... Enfin, si on va être éclairé dans notre raison, on ne le saura que plus tard. On ne le saura pas forcément au moment même. Et on, voilà, c'est l'obéissance à notre curé, à mon mari. À... Bon, si lui vous demandera, il vous dira que je ne suis pas forcément très obéissante. Mais... voilà, l'évêque à l'ordre du Carmel. La sixième demeure, c'est l'amour qui s'apprend, le cantique des cantiques. Le chant d'amour de la bien-aimée vis-à-vis de son bien-aimé, le plus beau texte de la Bible. Ou le discours d'adieu dans l'évangile de Saint Jean. Voilà, c'est l'heure du creuset suprême de l'amour. C'est, on va demander à Jésus, comme la petite Thérèse, que ça soit lui qui exerce sa charité à travers nous, parce que nous, on en est incapables. Donc, poser des actes de charité encore et encore et encore. Voilà. Et ça s'appelle aussi les fiançailles spirituelles. Oui. C'est-à-dire, comme dans des fiançailles dans l'ancien temps, la bien-aimée et le bien-aimé ont entendu parler l'un de l'autre. La bien-aimée par l'évangile, par les homélies, par ce que les saints nous ont à dire. Bah, le bien-aimé, il y a une première entrevue. Sous un chaperon. La septième, c'est ayant ressuscité avec le Christ, collaborer avec son œuvre l'Église. C'est le tombeau vide et l'apparition aux disciples. C'est le mariage spirituel. Voilà. Thérèse d'Avila, elle a vu Jésus lui remettre un clou en gage de mariage spirituel. C'est engageant.
Ça l'est beaucoup.
Voilà. Après, cette étape-là, en fait, c'est vraiment le lieu où Marthe et Marie sont unies. Où la contemplation et l'action vont de pair. Et ce but, c'est vraiment pour produire des œuvres et pour l'Église. Pour le bien de l'Église.
Donc s'il y a trois points à retenir, c'est vraiment le premier, le deuxième et le troisième. Comme quoi, l'homme peut être acteur de ces trois points et ensuite, c'est le Seigneur qui décide.
C'est le Seigneur qui décide, mais il a besoin de notre bonne volonté. C'est-à-dire que si on lui ouvre pleinement et qu'on accepte tout ce qu'il nous envoie, aujourd'hui, dans les textes d'aujourd'hui, on a un texte sur Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà.
La fête de Sainte Thérèse d'Avila, c'est le 15 octobre prochain. Comment vous allez la célébrer? Comment on peut la célébrer?
Alors, comment on peut la célébrer? Aller à la messe au couvent des Carmes, déjà. La messe est à midi, puisque ça sera un samedi, et ça sera fête solennelle et une très belle solennité, c'est formidable. Prendre la décision de faire oraison, s'inscrire à une école d'oraison, donc aller voir sur le site du couvent des Carmes. Lire un livre de Thérèse d'Avila, ou lire un livre sur ses écrits, qui peut être plus facile d'abord avec une écriture plus moderne peut-être. Enfin,
oui,
je ne sais pas comment le qualifier.
On peut penser qu'il y a beaucoup de traductions qui ont été faites de ces livres.
Voilà, tout à fait. Il y a des traductions, il y a des gens qui ont écrit dessus qui nous aident à rentrer dedans. Donc, éventuellement, aller voir aux éditions du Carmel ou sur le site des éditions du Carmel. Il y a aussi cette année, enfin, il y a un nouveau certificat de spiritualité proposé par l'Institut Jean de la Croix. Et la première année est dédiée à Sainte Thérèse d'Avila. Donc là, vous vous inscrivez, vous recevez des fichiers audio chez vous. Et vous pouvez écouter, apprendre sur Sainte Thérèse d'Avila.
Ça nous laisse encore beaucoup de billes, en tout cas, pour en savoir plus sur Sainte Thérèse
d'Avila.
Beaucoup
de billes. Après, vous pouvez aussi commencer par lire les lettres, les livres de sa vie. Et c'est formidable, quoi. C'est vraiment...
Bon, en tout cas, on en a un petit peu appris grâce à vous pendant cette émission Vivante Église.
À peine. On a effleuré le sujet.
On arrive à la fin de cette émission. Tout de suite, on retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette Église Actualité avec le diocèse d'Auch qui organise mardi la messe de rentrée de l'enseignement catholique du Lot. La messe aura lieu au grand couvent de Gramat, 33 avenue Louis Mazet. Et Monseigneur Lacombe, archevêque du diocèse d'Auch, sera présent. Plus d'informations sur cahors.catholique.fr. On part du côté de Toulouse maintenant, le CCFD Terre Solidaire propose de participer à un cercle de silence pour dénoncer l'enfermement arbitraire des migrants. C'est tous les derniers mardis du mois à partir de 18h30 sur la place du Capitole. Renseignements au 05 62 47 21 39. 05 62 47 21 39. Toujours à Toulouse, mais cette fois-ci à destination des étudiants. La messe de rentrée aura lieu mercredi à 20h en la cathédrale Saint-Étienne. Elle sera suivie d'un grand forum de rentrée pour découvrir tous les groupes et les activités qui font vivre la pastorale. Tous les étudiants de Toulouse ou de la région sont les bienvenus pour cette messe qui aura donc lieu mercredi à 20h en la cathédrale Saint-Étienne. Et pour conclure, le diocèse de Rodez organise le pèlerinage diocésain en Italie sur les pas de Padre Pio. Le pèlerinage débute jeudi et se termine le vendredi suivant. Pour vous inscrire, il faut contacter le 05 65 68 04 47. 05 65 68 04 47. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre antenne. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver celle-ci sur notre site internet radioprésence.com ou sinon elle est disponible en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.